surtout merci à vous. Merci à vous d'être là, mais merci à vous d'être là toutes les semaines et toute l'année, et pour certaines depuis pas mal d'années, certains et certaines. Merci de ce service que vous rendez à nos petits et à leurs parents. C'est un des lieux éminents et extrêmement importants dont nous devons prendre soin. Alors c'est un chantier qui reste encore vraiment à ouvrir dans le cadre de ce que le diocèse est en train de mettre en place, de vivre, mais c'est un chantier prioritaire, vraiment, que l'on prenne soin de la catéchèse et de tous ces enfants à qui cette activité éminente et traditionnelle de l'Église est destinée. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Alors je remercie sœur Eugénie et puis toute l'équipe pour votre invitation fidèle à me faire travailler. Et donc aujourd'hui sur le sacrement de la réconciliation. Alors ce sacrement, il est compliqué. Il est compliqué à vivre, je ne vous l'apprends pas. Mais il est compliqué aussi un peu à expliquer et même, commençons par le commencement, à nommer. On parle du sacrement de la conversion, du sacrement de la pénitence, du sacrement de la confession, du sacrement du pardon, du sacrement de la réconciliation. Ça ne fait pas cinq sacrements, c'est le même qu'on appelle diversement, selon que l'on veut insister sur ceci ou sur cela. Mais toutes ces manières de le désigner existent. Alors, on parle du sacrement de la conversion, par exemple, en réponse à l'invitation que l'on trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 15. Jésus disait, on est après l'arrestation de Jean, il part pour la Galilée, on est au tout début de l'évangile de Marc. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Jean-Baptiste vient d'être arrêté. Vous savez ce que faisait Jean-Baptiste dans le désert. Il baptisait les gens, il les invitait à la conversion, à regretter leurs péchés, à changer de vie, à se convertir. Et Jésus reprend le flambeau en quelque sorte. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Et donc, ce sacrement, il est une manière de mettre en œuvre cette invitation de Jésus. Il y a aussi, chapitre 15 de l'évangile de Luc, verset 18, « Je me lèverai, dit le fils prodigue, dont l'image est projetée au tableau. » Vous connaissez la parabole, hein ? Et puis, donc, ce fils qui, affamé au milieu de ses cochons, dont il n'ose pas voler la nourriture, dit, je me lèverai, rentra, verset 17, alors il rentra en lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, moi ici je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Il se convertit. Voilà, sacrement de la conversion. Très bien. Sacrement de la pénitence. Alors, la pénitence, eh bien, quand on l'appelle comme ça, cela signifie que l'on insiste sur la dimension de conversion aussi, mais aussi de repentir et de ce qu'on appelle en langage technique la satisfaction. C'est-à-dire que le péché entraîne des conséquences, et ces conséquences, eh bien, il faut les réparer, d'où la pénitence qui est donnée à la fin de la célébration du sacrement pour compenser le mal qui a été fait en quelque sorte et essayer de le réparer quand on le peut. On parle du sacrement de la confession pour souligner deux choses. On confesse deux choses, on confesse sa foi et on confesse ses péchés. On confesse sa foi et il faut commencer par cela. Oui, je crois en Dieu. Je développerai cela un petit peu plus. Hein. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu qui est sauveur, qui donne la vie et qui veut me conduire à la sainteté, à la perfection, à la vie éternelle. Je crois en Dieu. C'est la confession de foi. Et il faut commencer par cela. Parce que c'est à la lumière de cela qu'ensuite, on mesure l'écart qu'il y a entre cette perfection de Dieu à laquelle il m'appelle et à laquelle je consens d'être appelé et qui vient alimenter mon désir d'y correspondre, et puis la réalité de ma vie, là où j'en suis. Et donc, il va y avoir l'aveu de cet écart et de mes fautes. Donc, confession, sacrement de la confession, confession de foi, confession de ses péchés. On parle du sacrement du pardon. Et le pardon, ben, c'est le fruit de l'absolution. Une fois que on a déclaré son amour pour Dieu, sa reconnaissance de Dieu qui m'appelle, mon désir de correspondre à cet appel et à cet amour, et une fois qu'on a confessé ben, ce qui m'en tient encore écarté, éloigné, eh bien, il y a quelques mots de consolation, d'encouragement que le prêtre va formuler, et l'absolution, à proprement parler, qui a pour effet de me donner le pardon. Et donc, on parle du sacrement du pardon, qui est à la fois le pardon de Dieu et le pardon de l'Église. C'est pour cela qu'on se confesse à un prêtre, et pas tout seul devant Dieu au fond de son jardin. Pardon de Dieu, parce qu'évidemment, Dieu est blessé dans son cœur par cet écart qui me tient éloigné de lui alors qu'il me veut avec lui. Et l'Église est blessée. L'Église est le corps du Christ, la famille de ceux qui répondent à cet appel à la sainteté que le Christ adresse à tous. Et quand un membre de ce corps est souffrant, eh bien c'est tout le corps qui est abîmé, qui souffre. Et quand un membre est réparé, eh bien, c'est tout le corps entier qui se réjouit de cette réparation. Comme la pièce perdue est retrouvée, comme la brebis perdue est retrouvée. Venez avec moi, faisons la fête, parce que la pièce que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. Alors venez vous réjouir avec moi. Voilà. Donc c'est à la fois pardon donné par Dieu, par l'Église. Et puis, dernière manière de désigner ce sacrement, c'est celle qui a été choisie pour le titre que vous avez sous les yeux, le sacrement de la réconciliation. Alors, pour illustrer cela, j'ai noté 2 Corinthiens 5, 20, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, qui dit ceci. Nous sommes donc, si je remonte un tout petit poil, c'est Paul qui parle du difficile exercice du ministère apostolique. Et verset 19, c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous, il nous a confié à nous, apôtres, la parole de réconciliation. Verset 20, nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voilà, sacrement de la réconciliation. Et puis, Matthieu 5, verset 24. 5, c'est les béatitudes, vous savez. Et puis, au verset 24, c'est l'appel à la cohérence. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer un jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer un jugement, etc., etc. Verset 24, verset 23, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, verset 24, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Laissez-vous réconcilier avec Dieu et va te réconcilier avec ton frère. Il y a toujours cette double dimension qu'il faut tenir et je vais beaucoup insister là-dessus. Et déjà, j'insiste beaucoup là-dessus. Il faut nous départir ou en tout cas compléter une vision pas trop individualiste dans notre manière de comprendre et concevoir ce sacrement. Il y a en jeu ma relation avec Dieu, il y a en jeu ma relation avec l'Église, c'est-à-dire mes frères et sœurs, dans le corps du Christ. Les deux sont abîmés, et donc les deux doivent être réparés, en quelque sorte. Voilà, donc cinq manières d'appeler ce sacrement, qui est un sacrement très riche, on le devine, à travers les quelques mots déjà que je viens de formuler. Alors, comme je m'adresse au catéchiste, eh bien, j'ouvre le catéchisme de l'Église catholique, qui est pas mal, hein, vous savez, c'est un peu épais à lire, mais enfin, je vous y encourage de temps en temps, au moins sur quelques thèmes. Au numéro 1422, on est dans le chapitre « Les sacrements de guérison ». Alors, vous savez qu'il y a sept sacrements. Que dans l'Église, l'élaboration de ce qu'on appelle le septenaire sacramentel a pris du temps, et il est fixé au moment à peu près de Saint Thomas d'Aquin qu'on a fêté ces jours-ci. Bien. Sept sacrements. Trois sacrements dits sacrements de l'initiation chrétienne. Deux sacrements de mission, deux sacrements de guérison. Les sacrements de l'initiation chrétienne, dans l'ordre, baptême, confirmation, eucharistie. Dans l'ordre, baptême, confirmation, eucharistie. Ce n'est pas l'ordre dans lequel on les pratique nous autres en Occident pour des raisons diverses et peut-être contestables. Le baptême, la confirmation, c'est la même chose. Enfin, un prof de séminaire, jadis, avait dit à ses étudiants en introduisant le cours pour faire vite, au baptême, on branche le tuyau, à la confirmation, on ouvre le robinet. Bon, mais au baptême, il y a déjà l'onction d'Esprit Saint, l'onction de Saint-Crème, au moment du baptême, et les orthodoxes célèbrent les sacrements en même temps. Bon. Très bien. Baptême, confirmation, eucharistie, sacrement de l'initiation chrétienne, sacrement par lesquels on devient chrétien. Sacrement de mission, deux sacrements pour la mission. Le sacrement de l'ordre, qui fait en trois degrés les diacres, les évêques et les prêtres, et le sacrement du mariage. Deux sacrements de mission. Deux sacrements de mission. La mission des ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre, ben vous la connaissez. La mission de ceux qui ont reçu le sacrement ou qui ont célébré le sacrement du mariage, eh bien, elle est de rendre visible la manière dont Dieu se lie à l'humanité et dont le Christ se lie à l'Église, et de le rendre concret, efficient, efficace, perceptible, sensible, comme tous les sacrements. Il y a des choses visibles, sensibles, concrètes. D'abord pour la famille, les enfants, etc., et pour la société. Sacrement de mission, sacrement public. Bon, deux sacrements de mission, et puis deux sacrements de guérison, parce que dans la vie chrétienne, eh bien, il y a des menaces, des blessures, des maladies, et il faut les guérir. Les deux sacrements de guérison, c'est le sacrement de l'onction des malades. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand on est malade, on peut perdre la foi. Quand on est malade, on est tellement éprouvé qu'on peut, même si on est croyant depuis toujours, être tenté de dire, comme beaucoup le pensent et le disent, si Dieu existait, il ne permettrait pas ça. La foi est en péril, menacée. Et donc, on a besoin d'un sacrement pour protéger, en quelque sorte, mon attachement à Dieu et du cœur même de ce que je suis en train de traverser, de vivre comme personne malade et peut-être menacée de mourir. De témoigner de l'amour de Dieu plus fort que la mort. D'en témoigner, c'est un sacrement qui fait des témoins aussi, le sacrement des malades. Sacrement de guérison, sacrement des malades, et le sacrement de la pénitence, de la réconciliation, du pardon, de la confession, bref, celui dont on parle aujourd'hui, et qui fait partie de la liste des deux sacrements de guérison. Très bien. Alors, je vous lis au numéro 1422. C'est l'article 4 du deuxième chapitre, sacrement de guérison. Ceux qui s'approchent, c'est une citation du Concile Vatican II dans le grand texte sur l'Église, Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l'Église, au numéro 11. Ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite, et du même coup sont réconciliés avec l'Église que que leur péché a blessé, et qui, par la charité, l'exemple, les prières, travaillent à leur conversion. Voilà, le concile, c'est toujours comme ça, c'est des phrases, quelques mots extrêmement denses, où il y a énormément de notions et de choses dites, de manière très concentrée. En plus, c'est du latin à l'origine, traduit en français. Ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui donne le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite à Dieu, dont la miséricorde de Dieu donne le pardon de l'offense qui a été faite à Dieu, et du même coup, par là même, sont réconciliés avec l'Église que leur péché a blessé et qui, par la charité, l'exemple, les prières, travaillent à leur conversion. L'Église prie, prend soin, donne l'exemple, travaille à la conversion des pécheurs. Priez pour la conversion des pécheurs. C'est l'invitation que la Vierge Marie à Lourdes transmet ou confie à Bernadette pour qu'elle aille dire ça aux prêtres. Priez pour la conversion des pécheurs. L'Église tout entière ne cesse de prier pour la conversion des pécheurs. Ça veut dire pour la réconciliation des hommes avec leur Dieu et avec leurs frères. Ça veut dire que l'Église ne cesse de travailler, et c'est le début de ce que rappelle le texte sur l'Église du Concile Vatican II. Pour ceux qui étaient là, ils m'ont entendu le présenter. La mission de l'Église, c'est de permettre que tous les hommes deviennent frères entre eux et soient unis ensemble avec Dieu. Voilà, c'est la mission de l'Église. L'union intime avec Dieu et le développement d'une fraternité humaine, de la fraternité universelle, c'est un mot large, catholique si vous préférez. C'est ça la mission de l'Église. C'est ça que désire le cœur de l'homme. C'est ça que veut Dieu pour nous. C'est cette œuvre à laquelle il nous demande de coopérer. Lorsque nous disons la prière du « Je confesse » à la messe, je prie la Vierge Marie, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Vous aussi, c'est l'Église qui est interpellée pour prier pour la personne qui le demande, pour sa conversion. Ça va ? Ça va ? Bon. Je redis une dernière fois la phrase. C'est dans le Concile Lumen Gentium numéro 11, cité par le catéchisme au numéro 1422. Ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite et du même coup sont réconciliés avec l'Église que leur péché a blessé et qui, par la charité, l'exemple, les prières, travaillent à leur conversion. Quand j'étais curé en banlieue de Toulouse, la responsable de la catéchèse, des catéchistes de la paroisse, m'avait demandé, alors je suis arrivé en septembre, comme tout le monde, si j'ose dire, avant la Toussaint, de prévoir une date pour confesser les enfants du caté, puis avant Noël, puis avant Pâques, et puis avant la première communion pour ceux qui étaient concernés. Et puis, profession de foi, enfin bon. Et je leur ai dit, écoutez, on va essayer de travailler autrement. On ne va pas faire de la confession un événement exceptionnel et rare. On va au contraire programmer que tous les mois, pof, on inscrit qu'il y a la célébration proposée de ce sacrement pour tous, de manière habituelle, parce que ça accompagne la vie du chrétien, du croyant. Et ce n'est pas un événement exceptionnel qui, du coup, fait peur un peu et duquel on s'écarte tranquillement. Mais on l'inscrit dans l'habitude d'un chrétien, quoi. Voilà. Et ça a porté ses fruits. Mais c'est le travail des catéchistes, des éducateurs, des parents, que de prendre soin des petits en les familiarisant avec, entre autres, ce sacrement. Alors, il ne faut pas commencer par les familiariser avec le sacrement pour dire « il faut d'abord faire ton examen de conscience et puis qu'est-ce que tu as fait de mal ?» Bon. Sinon, on retombe sur la caricature qu'avait faite Piem, vous savez, le dessinateur, la Piem. J'avais vu ça un jour, c'était formidable. On voit un arbre avec un petit enfant et une dame catéchiste, l'air sévère au-dessus de l'enfant. Et autour de l'enfant, il y a Donald, il y a Mickey, il y a des ballons, il y a des jeux, il y a ceci, il y a cela, il y a tout un univers d'enfants, quoi. Et la catéchiste, la main levée, prête à frapper, qui lui demande « Pour la dernière fois, qui a fait pour nous ces merveilles ?» Bon. Il faut commencer par familiariser les enfants avec le Christ, avec le Seigneur, par la prière, par... Voilà. Et je me souviens, quand j'étais en paroisse, j'étais ému de voir le savoir-faire de ces personnes catéchistes avec ces petits, au début de chaque séance, de prendre 5 minutes voilà, de prière. Pas à la fin, au début. De commencer par ça, quoi. Voilà, bonjour Jésus, bonjour. On va passer une heure ensemble, mais on te confie ça. Voilà. Mais de manière habituelle, familière, comme si de rien n'était, quoi. Commencez par poser ça. Et une fois que ça s'est posé, eh bien, posez aussi que cette relation, elle peut être abîmée et qu'elle a besoin d'être réparée, il faut en prendre soin. Et puis la relation avec les autres aussi, elle peut être abîmée, il faut en prendre soin, et ça fait que. Voilà. Bref, d'en faire quelque chose d'ordinaire et pas d'extraordinaire. Bon. Jésus appelle sans cesse à la conversion. Ah oui, il faut que je regarde l'heure. Jusqu'à quelle heure on a ce Eugénie ? D'accord. Oui, oui, non, mais ça... Oui, d'accord, j'ai compris. Jésus appelle sans cesse à la conversion. La conversion, c'est quoi ? C'est l'inverse du livre de la Genèse, enfin du péché originel dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on se sert tout seul de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance. On se sert tout seul alors que Dieu veut nous faire cadeau de ce qu'il a semé dans le cœur de l'homme comme désir de la vie éternelle. Mais ça ne peut être qu'un cadeau de Dieu. L'homme ne peut pas se donner à lui-même l'éternité, puisqu'elle est une caractéristique de Dieu, et la perfection, parce qu'elle est une caractéristique de Dieu. Mais le menteur, le tentateur, glisse, susurre, murmure, et met dans le cœur de l'homme que Dieu est jaloux et qu'en réalité, c'est à lui de se servir. Et ça enclenche la catastrophe que l'on sait. Voilà. Le péché, c'est ça. C'est se mettre, nous, au centre des affaires. On est la référence de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est juste, et les autres n'ont qu'à reconnaître que j'ai raison. Et Dieu avec. Je ne parle pas du pape et des évêques. Hein. Bon. Ils n'ont qu'à reconnaître tous que c'est moi qui ai raison. Bon, la conversion, c'est passer de moi comme centre de tout à Dieu comme centre de tout. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Mais c'est ça l'idéal, c'est ça la conversion. Saint Paul, il est tombé de son cheval le 25 janvier, là, et il est passé de lui comme centre de sa vie. Lui, ça veut dire... son opinion politique des choses, son opinion religieuse des choses, de ce qui se passe avec cette secte de chrétiens, là. Il est passé de lui comme centre d'appréciation de tout au Christ. Il le met à bas, il tombe de son cheval, et là, ben, il faut tout reconstruire. Et ça va se passer à Damas, où il va être baptisé pour commencer, et puis progressivement devenir... l'apôtre et le missionnaire que l'on sait. Donc c'est ça la conversion. Dans les tympans, les portails des églises, des cathédrales, elle est parfois représentée... Vous savez, moi, quand j'étais au cathé, ma catéchiste, elle faisait ce qu'on lui avait dit de faire, c'est-à-dire qu'elle m'expliquait la conversion par ce qu'on appelle conversion quand on est sur une piste de ski et qu'on apprend à faire demi-tour. Bon. Sauf que les grands artistes du Moyen-Âge, ils n'avaient pas de skieurs sous la main pour décrire la conversion, mais ils avaient des acrobates, et c'est encore mieux. Parce que la conversion, c'est plus que simplement, en étant debout, de se retourner, mais c'est carrément de mettre les pieds en haut, la tête en bas, et de voir les choses encore plus sous un autre angle. Si, vous voyez ? La conversion. Jésus, sans cesse, appelle à la conversion. Et cette conversion, elle est à la fois une tâche humaine. On doit faire quelque chose, d'où la pénitence à la fin du sacrement. Il faut se retrousser les manches et faire quelque chose. Il ne suffit pas de se dire « Dieu est bon, il pardonne tout, donc ça ne requiert rien de spécial de ma part. » Non, il faut faire quelque chose. Même si on n'a pas grand-chose, 5 pains, 2 poissons, mais il faut quand même les offrir. Même si on n'a pas mérité d'être invité au banquet, mais il faut quand même mettre l'habit de fête. Sinon, c'est voilà. Dieu requiert notre coopération. Et là, on a ça aussi dans le livre de la Genèse, quand après avoir créé toutes choses, il les confie à l'homme pour qu'il les nomme, pour qu'il leur fasse porter du fruit, etc. C'est la parabole des talents. Il en donne 1, il en donne 5, il en donne 10, et faites-les fructifier. On fait ce qu'on peut. Ben, tu m'en as donné 5, ben, j'en ai obtenu que 5. Bon, ben, très bien. Mais on fait ce qu'on peut, mais on doit faire quelque chose. Vous voyez ? Donc, à la fois, la conversion, elle requiert de notre part quelque chose. Un acte, une décision, quelque chose. Et elle est aussi et surtout un don de Dieu. Et elle doit être considérée comme telle. On ne se convertit pas à la force de ses poignets, à force de résolution et de progression et d'entraînement et de volontarisme. Ben non. C'est aussi et surtout un don de Dieu. Un don de Dieu qui appelle ma coopération. C'est les deux choses. Œuvre de tâche humaine et œuvre de Dieu. Vous vous rappelez ceux et celles qui étaient là quand j'avais parlé du salut avec l'image, le ciel en bas, le ciel en haut, la terre en bas, entre les deux, ben, une cloison étanche, double cloison, la mort, le péché. La mort, fait pas exprès, c'est la vie, c'est la nature, et le péché, c'est notre liberté qui marche pas bien, et qui épaissit la cloison entre le ciel et la terre, en quelque sorte. À Noël, Dieu prend chair humaine pour traverser, casser ce couvercle, casser cette frontière entre le ciel et la terre. Il vient investir notre chair et du coup, le ciel et la terre ne sont plus étanchement séparés. Et c'est déjà pas mal. Mais ça ne suffit pas parce que l'homme est encore plus bas que simplement sur la terre. Il est aussi non seulement mortel parce que vivant, mais il est aussi pécheur. Donc, à cause de cette réalité-là, ben, il faudra que Dieu descende encore plus bas qu'à la crèche, et il faudra qu'il descende jusqu'à la croix et jusqu'aux enfers, jusqu'au tombeau et jusqu'à l'enfer. Parce qu'il y a des hommes, parce qu'il y a du mal, parce qu'il y a du péché. Bon. C'est donc Dieu qui franchit le couvercle étanche entre lui et nous. C'est lui qui fait cette démarche, donc c'est pour ça que la conversion et la réconciliation, tout ça, c'est œuvre de Dieu. C'est lui et lui seul qui peut casser le couvercle. C'est pas nous. Nous, notre orgueil humain, enfin notre désir légitime mis en nous par Dieu, mais nous conduit à le péché, c'est l'autosuffisance, je l'ai dit, et donc du coup on dresse des échelles et on essaye de maîtriser la vie, de maîtriser la mort. C'est un des points, vous savez, qui explique la position de l'Église sur le projet de loi fin de vie, là, tout de suite. Ça a quelque chose à voir avec le péché originel. Et on sait ça de l'intérieur, quoi. Même si, évidemment, des situations de souffrance, de maladie, et, bon, on sait bien que c'est complexe, compliqué, et bon, voilà. Mais au-delà de cette dimension humaine tellement compréhensible, au-delà de ça, se jouent des fondamentaux de l'humanité, de l'anthropologie humaine, du sens des choses, de la vie, de la relation de l'homme à Dieu, etc. etc. Et là, on touche à quelque chose de vraiment, vraiment grave. Bon, bref. Alors, la conversion, je reviens encore là-dessus. Quand j'étais à l'aumônerie, j'utilisais une image, je me mettais à un angle de la pièce, et je disais, voilà, mon but, mon désir dans ma vie, c'est passer de cet angle, l'homme ancien dont parle saint Paul, à l'angle opposé, qui est la situation de l'homme nouveau dont parle saint Paul. Et le but de la vie, et qui demande bien des conversions, Ben, c'est de passer d'un état à l'autre, de l'état de l'homme ancien, pécheur, limité. Bon, je fais le mal que je voudrais pas, je fais pas le bien que je voudrais, dit saint Paul. Bon, à l'homme nouveau, l'autre Christ, le nouvel Adam, voilà, l'homme qu'on désire être. Bon, alors pour passer de l'un à l'autre, on peut le faire soit marche avant, soit marche arrière. Et je le représentais physiquement. Alors, ce n'est pas une ligne droite. Hein. Il y a des méandres, il y a des retours en arrière, comme les Hébreux dans le désert pendant 40 ans, tout ce qu'on veut. Bon, mais en fait, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée quand même. Ça va durer plus ou moins longtemps, mais c'est ça la trajectoire idéale de la vie, de notre désir. Bon, l'homme ancien, l'homme nouveau. Et globalement, pour faire ce trajet, soit on le fait en marchant devant, soit on le fait de dos, soit on le fait en regardant l'homme ancien, et disant « j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus », à force de dire « j'en veux plus », je m'en éloigne, et m'en éloignant, je me rapproche du but. Ou bien se retourner, regarder le but et se laisser attirer par lui. Pour ma part, je préfère cette pédagogie-là. La première, les deux, ça marche, hein, plus ou moins efficacement. Mais il y en a une qui est quand même, je trouve, meilleure que l'autre. Plus vite, oui, sans doute, peut-être. Regarder derrière, c'est quoi? C'est commencer la confession en parlant de soi et en disant « Mon Dieu, que je suis laid. Mon Père, si vous saviez. » Enfin, vous allez savoir. Bon. Regarder l'angle opposé, c'est commencer par prendre la parole de Dieu et dire « Mon Dieu, que Dieu est beau et que j'aimerais lui ressembler. » Hier, à la messe, le texte de l'évangile, c'était la parabole du semeur. J'aime commenter cette parabole en disant, bon, Jésus a déjà fait l'homélie, puisqu'il raconte, il explique la parabole, très bien, donc ce n'est pas la peine de le paraphraser. Par contre, regardons le geste du semeur. Spontanément, quand on lit ce texte, et puis c'est le but de la parabole, on regarde à quoi on ressemble nous-mêmes. Et on essaye de faire ce qu'il faut pour être un peu bonne terre, quand même, quoi. Bon. Mais on se regarde soi quand on fait ça. On regarde l'angle de là-bas. Et on voit des ronces, et on voit des pierres. Et on veut devenir bonne terre. Je dis, retournons-nous, regardons le semeur, regardons le ciel, regardons Dieu. Et remarquons comme son geste est généreux, comment il est large, comment il fait envie, quoi. Et voilà, cette expression, il vaut mieux faire envie que pitié, enfin, vous voyez. Après, on a des tempéraments, on a des... Bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein, donc, mais encore une fois, les deux marchent. Hein. Mais voilà. Le prodigue... Vous savez, la parabole, Luc 15, je n'ai pas le temps de la lire, mais on parle du fils prodigue. Mais en réalité, il faut parler du père prodigue. Vous le savez, hein, vous l'avez entendu. Je vous ai déjà partagé cette... Ah ben tiens, ah zut, j'ai oublié. J'espère que non. Non, c'est là. Je vous ai cité de mémoire, mais je vais vous lire le texte. Dans ce très bon livre d'entretien du pape François avec Andrea Tornielli, intitulé « Le nom de Dieu et miséricorde », qui avait été publié dans le cadre de l'année de la miséricorde, année sainte que le pape avait déclarée au début de son pontificat. Comment fait-on pour se reconnaître pécheur? Que diriez-vous à quelqu'un qui n'a pas l'impression de l'être? Bon, le pape fait quelques considérations sympathiques. Et puis, vraiment, ce qu'il veut dire, c'est vraiment une grâce que l'on doit demander. Et il cite une histoire. Don Luigi Giussani citait toujours cet exemple tiré du roman de Bruce Marshall, Un sou par homme. Le héros du livre, l'abbé Gaston, doit confesser un jeune soldat allemand que les résistants français ont condamné à mort. Le soldat avoue sa passion pour les femmes ainsi que les nombreuses aventures qu'il a eues. L'abbé lui explique qu'il doit se repentir afin d'obtenir le pardon et l'absolution. Le jeune homme lui répond : Comment voulez-vous que je me repente ? Cela me plaisait, et si j'en avais l'occasion, je le referais même maintenant. Comment voulez-vous que je me repente ? Pour mériter le pardon et l'absolution. L'abbé Gaston, qui veut absoudre ce pénitent frappé par le destin et désormais à deux doigts de la mort, a alors un éclair de génie et demande : Mais toi, tu regrettes de ne pas regretter ? Et le jeune homme de rétorquer spontanément : Oui, je regrette de ne pas le regretter. En d'autres termes, je suis désolé de ne pas me repentir. C'est le ray de lumière qui permet l'absolution. Je trouve que ça, c'est assez bouleversant. Voilà. Spontanément, on dit que pour pouvoir goûter le pardon de Dieu, non pas le mériter, mais bénéficier, quoi, il faut à minima se retourner comme le fait le fils dans sa bouge à cochon. Au moins se retourner. Et je retourne chez mon père. Et une fois qu'il a fait ce mouvement, il découvre que son père est là, qu'il attend. Et l'histoire, là, et le pape utilise cette histoire pour souligner ça, il dit « ça ne suffit pas de dire ça ». Parce qu'il y a certaines situations dans la vie où on n'a même plus la force de ce retournement-là. Mais est-ce qu'au moins je regrette de ne pas pouvoir le faire ? Il dit « s'il y a au minimum du minimum ce regret de ne pas pouvoir bouger, pour enclencher la suite, eh bien, ça suffit pour déclencher la possibilité de recevoir la miséricorde de Dieu. Voilà. Et donc, le plus important là-dedans, c'est le cœur de Dieu, plus que les actes du Fils. À certains moments dans la vie où le Fils, il peut rien faire. Mais au moins regretter. Et c'est le minimum de coopération qui est requis de sa part, c'est ça. Mais il faut au moins ça. Puis là, j'y reste. Quand vous entendez l'Église, dans ce que je vais lire, entendez les catéchistes. En suivant le Seigneur, l'Église est appelée à répandre sa miséricorde sur tous ceux qui se reconnaissent pécheurs, responsables du mal qu'ils ont accompli, qui sont demandeurs de pardon. L'Église n'est pas là pour condamner, mais pour permettre la rencontre avec cet amour viscéral qui est la miséricorde de Dieu. Pour que cela se produise, je le répète souvent, il est nécessaire de sortir. Sortir des églises et des paroisses, sortir et aller chercher les gens là où ils vivent, où ils souffrent, où ils espèrent. L'hôpital de campagne, l'image avec laquelle je me plais à représenter cette église en sortie, a pour caractéristique de naître là où l'on se bat. Ce n'est pas la structure solide, pourvue de tout, où l'on va soigner les maladies bénignes ou gravissimes. C'est une structure mobile, de sauvetage, d'intervention rapide, pour éviter que les combattants ne succombent. On y pratique la médecine d'urgence et non les check-ups spécialisés. J'espère que le jubilé extraordinaire, l'année de la miséricorde, fera émerger de plus en plus le visage d'une église qui redécouvre le ventre maternel de la miséricorde et qu'elle ira à la rencontre des nombreux blessés qui ont besoin d'écoute, de compréhension, de pardon et d'amour. Mais vos petits sont ceux-là. Vos petits sont ceux-là. Apprenez-leur cela. Donnez-leur de goûter ce sacrement pour leur apprendre cela comme quelque chose d'ordinaire, d'habituel dans leur relation avec Dieu et vous n'aurez pas perdu votre temps. Dans sa rencontre avec les pécheurs, dans l'Évangile, j'aime repérer que Jésus s'y prend à l'envers de nos façons de faire à nous. Nos façons de faire à nous, c'est quoi ? Ben, on demande que le pénitent, c'est ce qu'on nous apprend au séminaire, regrette vraiment et sincèrement ses péchés et qu'il ait déjà pris des décisions de ne pas recommencer, de sortir de la situation pécheresse dans laquelle il est aujourd'hui. Moyennant quoi, je peux lui donner l'absolution. Quelqu'un qui vit dans une situation irrégulière, je lui demande d'en sortir, ou de prendre l'engagement de le faire, moyennant quoi je vais lui donner l'absolution après. Dans l'évangile, Jésus fait l'inverse. Et pour moi, ça, c'est une vraie, vraie question. Et c'est comme ça que je comprends la consigne que le pape François m'a donnée à propos de Lourdes. À Lourdes, il faut donner l'absolution. Il ne faut pas scruter, poser des questions, etc., etc. Les gens sont là, ils sont venus, il faut leur donner l'absolution. Ça veut dire inconditionnellement. Quand on a fait un peu de théologie, qu'on a étudié ce sacrement, tout ça, ça vient bousculer quand même. Hein. Mais l'évangile fait comme ça. Quand Jésus rencontre des pécheurs dans l'évangile, il commence par leur dire « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu es aimé de Dieu inconditionnellement. » Et c'est cette déclaration qui va toucher le cœur de manière telle qu'ensuite, la personne pourra entendre ce qui va suivre. Va et ne pêche plus. Et la conversion viendra après. Et elle viendra. Et elle viendra. Et Jésus va la formuler, cette exigence-là. Il n'est pas démago en disant « c'est pas grave, t'inquiète pas, Dieu est bon et à la fin des temps, tout ira bien. » Va et ne pêche plus. Mais ce n'est pas « va, ne pêche plus, puis je te pardonnerai ». Dieu t'aime, je te le manifeste, va et ne pêche plus. Et la Samaritaine, elle court au village, il a dit, il sait qui je suis, venez voir. Ça bouleverse les gens. Moi j'aimerais qu'à Lourdes, les gens sortent du confessionnal bouleversés pour avoir goûté, touché la miséricorde de Dieu, la tendresse de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est ça qui va ensuite les convertir et faire d'eux des saints, pas l'inverse. Le pardon, il ne vient pas sanctionner une conversion déjà faite. Mais il vient la soutenir et la provoquer, l'accompagner. Il faut que l'Église se convertisse là-dessus. Hein. Et c'est un gros travail pour nous à Lourdes, avec les prêtres qui y œuvrent, parce que ben, parfois, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La liturgie du sacrement du pardon, et je m'arrêterai avec cela, elle commence donc, elle doit commencer. Le rituel, si on prend le rituel du sacrement, il est bien fait, il n'y a pas de problème. Mais notre pratique du rituel oublie la première étape, souvent. Elle commence toujours par une référence à la parole de Dieu. Toujours. Pourquoi ? Parce que je commence par regarder le cœur de Dieu, par me laisser toucher par le cœur de Dieu, par sa déclaration d'amour inconditionnel, par son désir de me partager sa miséricorde. C'est ça qui est premier. Et donc, il faut habituer les enfants, et puis nous-mêmes, dans notre propre pratique de ce sacrement, à commencer par la parole de Dieu. Une citation de la parole de Dieu, alors l'évangile, qui me dit et qui me touche, qui me dit que je suis aimé de Dieu. Et que c'est à la lumière de cela que, deuxième étape, je dis comment cette parole a provoqué en moi un désir de conversion. Je regrette, ou je regrette de ne pas regretter assez, mais je veux faire mieux. Je regrette ou je regrette de ne pas regretter assez ma rupture avec Dieu ou le décalage qu'il y a entre Dieu et moi. Or, je veux être comme lui. Et puis, ma rupture avec mes frères, qui est conséquence de ma rupture avec Dieu. Bon. Puis, troisièmement, je fais l'aveu de mes fautes. C'est-à-dire, concrètement, pour moi, la rupture, voilà comment elle s'incarne dans ma vie. Alors, chacun les siens, j'ai envie de dire. Mais enfin, quand on est confesseur, je peux vous rassurer, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Hein. Bon. Oui. Un, la parole de Dieu. Deux, la contrition, le regret ou le regret de l'absence de regret. Trois, l'aveu. On entre, on n'est pas dans les nuages, quoi. On entre dans les choses concrètes. Quatrièmement, l'absolution, qui sont les paroles sacramentelles que prononce le prêtre pour me donner le pardon de Dieu et de l'Église. Et cinquièmement, donc, la pénitence qui est donnée. C'est la satisfaction dont je parlais en commençant. Au numéro 1459 du catéchisme, il est écrit ceci, l'absolution enlève le péché, mais ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, si je l'ai volé, ben très bien, je vais chercher le pardon au confessionnal, mais ce n'est pas ça qui va réparer le mal que j'ai fait à la personne que j'ai volée. Et donc, s'il est possible de réparer, ben, je vais restituer ce que j'ai volé, je vais demander pardon à la personne aussi, parce que j'ai abîmé aussi son cœur, j'ai abîmé aussi ça. Bon. Et si ce n'est pas possible, eh bien, la pénitence vient symboliquement marquer quand même que je dois faire quelque chose. Voilà. Donc la réparation. Et les effets de tout cela, du déploiement du rite, eh bien, c'est la réconciliation avec Dieu qui apparaît comme une véritable résurrection spirituelle et avec l'Église qui a été abîmée dans la personne du frère et tout est réparé, tout est réparé. Voilà. Je m'arrête et je vous souhaite une belle journée. On se retrouve, on continue, on reste ensemble.